deuxième était le son. Transistor.
La gauche, ses valeurs, les gauches, leurs tractations, l'échéance présidentielle à venir, voilà les ingrédients de cette troisième table ronde de Transistor. Bonjour à tous et merci de votre fidélité à votre web radio préférée. Troisième table ronde donc, après les nouveaux médias et l'Europe. Cette dernière, ce sera la dernière qui reviendra à froid sur les discussions du Forum Libération de Lyon, que je vous invite à découvrir sur notre site. Autour de moi, une équipe de choix pour prolonger le débat. Alors, de droite à gauche, j'ai envie de dire, pour les présenter, Thomas, celui que vous entendez d'abord, d'habitude, dans Présidence, donc il est le chef d'orchestre. Bonjour Thomas.
Bonjour à tous.
À ses côtés, Pauline, qui nous a déjà apporté ses lumières sur l'Europe et qui va, j'en suis sûr, récidiver aujourd'hui.
Bonjour.
À sa droite, Frédéric, qui représente le collectif Front de Gauche de l'ENS de Lyon. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Et enfin, à sa droite, June, vétéran de Transistor, qui revient parmi nous pour cette table ronde. Bonjour June.
Bonjour.
Alors, je vous propose de faire une petite table ronde qui va se dérouler en deux temps. Le premier temps sera casquette de gauche aujourd'hui, les valeurs qui rassemblent, j'ai envie de dire. Et le deuxième temps, ce sera les gauches vers 2012 et les enjeux qui divisent, donc, plutôt. Donc, les valeurs qui rassemblent, premier tour de table. Pour vous, en un mot, d'abord, la valeur qui marque la gauche. Thomas.
La solidarité.
Pauline.
L'ouverture sans perdre l'exigence.
Frédéric.
La solidarité avec les peuples en lutte contre le capitalisme.
June.
J'ai envie de dire solidarité aussi.
Solidarité. Alors pourquoi la solidarité maintenant? Puisque c'est visiblement la valeur qui vous marque tous, sauf Pauline qui veut faire son intéressante. Pourquoi la solidarité?
Ça rejoint ce qu'a dit dans la conférence du Forum Libération qui s'appelait « C'est quoi être de gauche ?» et dont on s'inspire dans cette table ronde, Cynthia Fleury, qui, dans les arguments qu'elle a développés, qui étaient très intéressants cette conférence, montrait que il y a plusieurs termes pour définir ce qu'être de gauche, et parmi ça, il y a trois grands principes qui sont que le peuple existe, le peuple est souverain et le peuple est raisonnable. Et là-dedans, on voit que la gauche aborde le monde d'une façon différente que les autres franges de l'échiquier politique, et la droite par exemple. Et elle montre que le rapport entre la politique et le réel pour la gauche, ça part du collectif, et que c'est le collectif qui prime, et que pour la gauche, c'est ces trois idées fondatrices, ces trois idéaux qu'elle essaye d'appliquer au réel, et pas l'inverse. Et ça rejoint une phrase de Deleuze qu'elle a citée, qui disait que être de gauche, c'est d'abord penser le monde, puis son pays, puis ses proches, puis soi. Et Deleuze, dans l'abécédaire, retournait la phrase en disant « être de droite, c'est l'inverse ».
Donc c'est partir de soi, être de droite. Est-ce que le peuple serait au cœur de la gauche? C'est ce que tu disais, Frédéric, non?
Oui, tout à fait. Je crois qu'en période de crise, l'important pour la gauche, c'est de savoir de quel côté on se situe. Aujourd'hui, les peuples font face à une crise du capitalisme très importante. Les inégalités se creusent et l'enjeu pour la gauche, c'est de savoir si on s'oppose vraiment au diktat des marchés financiers ou alors si on accepte sans rechigner les obligations libérales imposées par le FMI, par la Banque Centrale Européenne, comme l'ont fait les sociodémocrates en Grèce ou en Espagne. En cela, on peut s'interroger, sont-ils encore de gauche?
D'accord. Et pour toi, June, c'est ce que tu mettais aussi derrière solidarité?
En fait, moi, j'ai envie de rebondir un peu sur ce que disait...
Alors, tu peux rebondir sur ce que disait Frédéric, mais en parlant dans ton micro, s'il te plaît.
Oui, pardon. Quand j'ai dit solidarité, je pense que ça, c'est les valeurs... c'est une des briques élémentaires de la gauche à l'origine. Et moi, j'ai envie de dire, il y a eu une rupture, pour parler vite, en 83, où Mitterrand a pris un virage libéral. Et à ce moment-là, c'est... Il y a deux choses. Il y a les valeurs de gauche authentiques, puis après qui se sont distinguées du positionnement à gauche sur l'échiquier politique.
D'accord.
Et donc là, il y a une ambiguïté.
Donc les partis de gauche n'étaient plus la gauche pour toi.
C'est une question à se poser. Est-ce que ceux qui sont catégorisés à gauche sur l'échiquier politique défendent encore les valeurs de gauche?
Alors on reparlera des partis politiques à proprement parler dans la deuxième partie de la table ronde. J'aimerais qu'on poursuive sur les valeurs d'habitude, d'abord, en revenant avec Pauline quand même, qui nous avait pas dit la solidarité. Rappelle-nous ce que tu avais dit.
Oui, moi j'ai dit l'ouverture sans perdre l'exigence.
C'est-à-dire
C'est-à-dire, oui, donc j'ai un peu biaisé, j'ai utilisé deux notions différentes, mais couplées quand même, donc vous me pardonnerez. Bon, la solidarité, je pense que c'est une évidence. En un sens, il me semble qu'on ne peut pas nier à la droite ou à ce qu'on appelle aujourd'hui les partis de droite, une forme de solidarité. On ne peut pas dire que, à mon avis, c'est une valeur humaine fondamentale que certains partis de droite représentent et à laquelle ils sont aussi attachés pour certains, en tout cas. Donc, en ce qui concernait la gauche, il me semblait que l'ouverture, c'était finalement cette idée qu'il y a besoin d'un partage en politique et dans la nécessité de gouverner une nation, mais c'est aussi la capacité à ne pas perdre de vue le besoin de tolérance, le besoin donc d'ouverture, c'est dans ce sens que je disais l'ouverture, mais en même temps, mais alors peut-être que c'est mon idéal de gauche à moi, et je ne sais pas trop si la gauche d'aujourd'hui l'incarne véritablement, sans perdre l'exigence, c'est-à-dire que par exemple aujourd'hui on va beaucoup pilonner l'élitisme ou... une certaine forme, le fait qu'il y ait des strates sociales distinctes, etc. Et sans aller dans l'idée que c'est complètement une évidence et qu'il faut que ça reste comme ça, il me semble qu'on ne peut pas forcément nier le fait que une forme d'élitisme, par exemple, est nécessaire, que ce n'est pas parce qu'on est ouvert et tolérant qu'on n'a pas besoin d'exigences. Et en ce sens, je pense que la gauche telle que je la voudrais ou telle que je la vois. Incarne ces valeurs-là.
Alors Thomas veut réagir depuis deux phrases.
Juste pour rebondir sur, on parlait la différence entre droite-gauche et pas vraiment la solidarité, parce qu'il ne faut pas dire la droite c'est des méchants, égoïstes, qui ne sont pas solidaires. Ce que disait Cynthia Fleury dans sa démonstration, alors Cynthia Fleury, pour juste préciser, c'est une prof de philosophie politique à Sciences Po Paris et à Polytechnique, qui est aussi chroniqueuse dans le journal L'Humanité, et ce qu'elle disait c'est que c'est pas en termes de méchants ou de bons qu'il faut raisonner, mais de limite de démarche philosophique. Elle dit que la gauche part d'abord du monde et de la plus grande collectivité dans ses raisonnements, alors que la droite, elle, ne considère pas que le peuple existe, qu'il n'y a pas de peuple en acte. C'est ce que dit Cynthia Fleury. Et pour la droite, selon elle, il n'y a qu'une collection d'individus et c'est pourquoi ils partent de l'individu. Donc c'était juste cette distinction philosophique et politique que faisait Cynthia Fleury.
John, alors déjà, je voudrais demander à Pauline. Qu'est-ce que tu mets derrière le mot ouverture? Parce qu'il y a des gens qui, au nom de l'ouverture, ont imposé la dérégulation financière et
Tu veux dire des gens de gauche ou...
Absolument, des gens de gauche.
Oui, voilà. Non, quand je pensais l'ouverture, c'était pas forcément d'un point de vue strictement économique, c'était plutôt... Je me plaçais plutôt du point de vue moral, c'est-à-dire cette idée selon laquelle pour être de gauche aujourd'hui, il faut aussi savoir s'adapter. Comme on est passé de l'antimondialisme à l'altermondialisme, il y a des phénomènes aujourd'hui qu'on ne peut pas complètement freiner, avec lesquels il faut aussi composer, sans forcément tomber dans la compromission. Donc, c'est-à-dire la capacité à se positionner de manière à la fois adéquate et souple, sans forcément perdre ses valeurs ni ses principes. Pourquoi pas le compromis, mais en tout cas pas la compromission. Pouvoir s'ouvrir, être un minimum tolérant, sans rien perdre de son exigence, c'est-à-dire de son intégrité.
Frédéric, sur ces questions d'exigence, oui. De compromis, de compromission.
J'ai l'impression que cette question des valeurs, elle est un petit peu piégée finalement, parce que là, on est dans un discours... très idéaliste, très moral. Enfin, l'important quand on est de gauche, c'est avant tout de porter des propositions concrètes. C'est par exemple de savoir si dans une période où se creusent les inégalités, on est pour proposer un salaire maximum ou pas. Est-ce qu'on est pour taxer davantage les revenus?
Est-ce que
les valeurs ne sont intéressantes que si elles débouchent sur des propositions?
Les deux marquent la gauche, je pense. Tout à l'heure, Pauline a prononcé peut-être le mot qui était juste, qui était celui d'idéal. Est-ce que toutes gauches ne sont pas, après tout, sur un idéal? Est-ce que ce n'est pas le point commun? Que ce soit l'idéal droit de l'hommiste, l'idéal révolutionnaire, l'idéal peu importe lequel il soit. Mm. Mais il y a toujours cette notion d'idéal, mais il y a aussi ce côté concret qui marque la gauche, June.
Pourquoi la droite n'aurait pas d'idéal?
Ah mais moi, je répète ce que vous dites, je pose la question.
Et justement, à ce sujet, moi, la pensée qui m'inspire avant tout, c'est celle de Jaurès. Et, Jaurès voulait précisément réconcilier l'idéalisme et le matérialisme, c'est-à-dire... à la fois avoir en vue un objectif qui est celui de la République sociale et à la fois également porter des propositions concrètes en s'appuyant sur les difficultés que rencontrent les citoyens, les travailleurs, pour améliorer les conditions de vie ici et maintenant.
Thomas, tu voulais réagir ?
Par rapport à la conférence, justement, c'est intéressant, c'est qu'ils ont commencé comme ça en parlant. Cynthia Fleury, philosophe politique, elle a eu un discours très idéaliste, de définition, de concept, c'était très intéressant. Et Henri Weber, lui, quand il a pris la parole, donc qui est membre du PS, député européen, il a été aussi, lui, longtemps prof de philosophie politique à Paris 8, il a défini des valeurs communes très rapidement, on peut en faire la synthèse. Il a commencé par solidarité, égalité, liberté, droits de l'homme, souveraineté populaire, tout l'héritage révolutionnaire.
Oui, des valeurs que personne ne renie aujourd'hui.
Voilà, et que même la droite
dans
partage.
Les partis démocratiques, tout, plus ou moins.
Voilà, que toute
souveraineté.
Bon, qu'une grande majorité des partis. À quoi il a rajouté laïcité et écologie, qui sont des héritages plus récents. Et il a bien montré que ces valeurs, elles devaient s'incarner dans des objectifs. Et il les a définis, ces objectifs, pour montrer qu'il y avait bien les deux. Il y a toujours cet idéal, mais qu'il ne faut pas rester dans la gauche des limbes et qu'il faut aussi les appliquer. Et ces grands objectifs, il veut faire une démocratie accomplie. Alors, bien sûr, c'est des grands mots. Donc, derrière, il faut des propositions concrètes dans une campagne, mais c'est aussi des axes pour une politique.
Je te coupe, Thomas, parce que Frédéric veut réagir. Tu continueras après.
Je trouvais ça intéressant que tu mentionnes la valeur du peuple souverain au fondement de la gauche. Et je trouve ça également
Henri Weber,
je trouve ça également que Henri Weber, membre du Parti Socialiste, la mentionne, alors que le Parti Socialiste a approuvé le traité constitutionnel européen qui revenait pourtant sur le vote majoritairement hostile des Français à la Constitution européenne. Donc en l'espèce, peut-être que Henri Weber a choisi un mauvais exemple, puisque sa position n'est pas vraiment en adéquation avec les actes du Parti Socialiste.
Pauline, tu as envie de réagir à ça ?
Oui, justement, ce qui me semble intéressant, c'est peut-être un peu collatéral à ce que vous dites, c'est que tu soulignais le fait que le Parti Socialiste a un peu allé contre la souveraineté populaire à propos du traité européen, et que pourtant, donc, Weber, là, mentionne la souveraineté populaire comme une valeur, alors que son parti semble aller contre. Te paraît étrange, ou peut paraître étrange à beaucoup de monde. En même temps, je trouve que c'est peut-être une des forces, et en même temps une des faiblesses, du Parti Socialiste, mais peut-être aussi de beaucoup de partis de gauche, mais je dirais surtout du Parti Socialiste, qui est un parti de gouvernement. C'est tout simplement le fait qu'au sein d'un même parti, il n'y a pas une seule voix. C'est-à-dire, d'ailleurs on l'a vu avec les primaires, et même l'idée même des primaires, c'est qu'il y a une forme de démocratie à l'intérieur du parti qui n'empêche pas les voix différentes de s'exprimer, même si évidemment il peut y avoir ensuite un principe qui ressorte. Tandis qu'on verra à droite justement une forme de capacité à suivre un chef, même si évidemment la droite, et c'est intéressant, est en crise aujourd'hui.
Moi je pense que c'est au contraire en fait une contradiction majeure qu'il y a au PS mais aussi à l'UMP, c'est-à-dire l'opposition entre les européistes et qui, enfin, étant donné la construction européenne actuelle qui est antidémocratique et les, je veux dire, les gens qui sont plus souverainistes comme Montebourg par exemple, je veux dire, qui sont pour plus de souveraineté, plus de d'un point de vue économique.
Mais oui, bien sûr, mais là, c'est parce qu'en fait, on part sur un thème particulier où forcément, à l'intérieur d'un parti, il y a des...
Ce que je voulais dire,
c'était l'idée, le principe. C'était pas le thème, parce que sur d'autres thèmes, il pourrait y avoir des désaccords aussi. L'Europe est un gros sujet. Mais il me semble que l'organisation même à l'intérieur du parti et des cellules du Parti Socialiste prouve une forme de capacité à la démocratie. Que n'a pas la droite.
Moi, je pense qu'il y a ce débat aussi à l'UMP, parce que si un groupe de députés ont créé la droite populaire, c'est justement parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec...
Mais tout de suite, ils entrent en dissidence, alors qu'il me semble que dans le Parti Socialiste, justement, il reste quand même de la famille.
Moi, je pense que c'est une opposition qui est tout aussi nette à droite qu'à gauche, et qui, à terme, va changer tout le paysage politique français. Et plus la crise avance et plus cette opposition s'exacerbe.
On va essayer de ne pas partir dans tous les sens tout de suite quand même, s'il vous plaît. L'idée de ce premier axe, hein, qui se termine, rassurez-vous, vous allez bientôt pouvoir parler des partis politiques, je vois que ça vous démange depuis tout à l'heure, c'était de trouver les valeurs qui rassemblent. Et là, vous me parlez que de division. Donc j'ai retenu la liste que Thomas a évoquée tout à l'heure. Et je vous propose une dernière valeur, peut-être, est-elle de gauche ? L'écologie, tu l'as mis dans ta liste tout à l'heure, est-ce que c'est une valeur de gauche ?
Alors c'est ce que disait Henri Weber quand il a fait sa conférence, c'est que c'était un des enjeux qui attendait les partis de gauche en général, c'était il y avait une adaptation nécessaire à l'échelon européen qui était trop souvent mal maîtrisée, une nécessaire adaptation au discours de la mondialisation et repenser à la mondialisation, penser une mondialisation de gauche et aussi penser une écologie qui s'inscrirait dans les valeurs de gauche et qui n'y ait pas d'un côté soit un programme qui met en avant le social ou un programme qui met en avant l'écologie, mais qu'il fallait trouver ce qu'il appelle une synthèse entre d'un côté la critique sociale-démocrate du capitalisme, et de l'autre côté la doctrine écologiste qui s'est développée en France depuis les années 70-80.
Donc tu as rajouté une autre question en plus, la mondialisation peut-elle être de gauche ? Frédéric, tu veux réagir à soit l'écologie, soit la mondialisation de gauche ?
Oui, je crois qu'aujourd'hui l'écologie est inséparable des luttes de la gauche. Je prendrai un seul exemple, celui de la relocalisation de l'économie. Pour nous, c'est à la fois un impératif social et un impératif écologique. C'est absurde de produire des panneaux solaires en Chine, alors qu'on sait très bien le faire en France, tant d'un point de vue social que d'un point de vue écologique. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut être hostile à la mondialisation, simplement il faut être, à mon avis, pour une mondialisation de coopération et pas de libre-échange. Et donc, sachant que cette coopération, il faut aussi parfois l'imposer par un rapport de force, y compris par des visas aux frontières, lorsque les inégalités sociales, écologiques entre pays sont trop fortes.
June.
Oui, alors sur l'écologie, c'est clair qu'aujourd'hui, c'est surtout la gauche qui en parle.
Mais est-ce que ça veut dire que l'écologie ne peut pas être de droite ?
Mais moi j'ai l'impression que l'écologie, au départ,
ne peut pas être écologiste.
Mais moi, j'ai l'impression qu'au départ, l'écologie, c'est d'abord, en fait, il y a longtemps, d'abord une valeur de droite, en fait, un peu réelle, parce que c'était des personnes qui voyaient une industrialisation, une urbanisation.
Alors Pauline hoche la tête, c'est ce qu'elle allait dire aussi.
Galopante, et puis qui parfois défigure les paysages. On le voit, quand ils veulent tracer des lignes TGV, ça défigure les paysages. Et aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que c'est un sujet qui a été récupéré par la gauche, parce que la gauche a abandonné finalement la classe ouvrière. Enfin, pas toutes les gauches, mais bon, disons le centre-gauche, et que en cache-sexe, ils se recentrent sur des sujets sociétaux et en prenant une espèce de progressisme. Ouais.
Alors, Pauline ou Thomas, ils se battent pour savoir qui va parler. Pauline.
Oui, il est galant, donc c'est moi qui parle. Donc oui, je disais, je disais pas, mais je pensais, l'écologie, pour moi, n'est pas du tout une valeur de gauche ou de droite. On pourrait peut-être dire que selon les situations, elle sera à gauche ou à droite. C'est peut-être aussi d'ailleurs mettre en relief le fait qu'il y a une différence entre être de gauche ou être à gauche, être de droite ou être à droite, soit dit en passant. Et en ce qui concerne donc l'écologie, plus précisément, il me semble qu'aujourd'hui, plus que jamais, on assiste à une forme de devenir en mode de l'écologie, quelque chose entre les bobos ou en ceux qui en font un business. Ça peut être aussi bien de gauche, à gauche qu'à droite, d'abord. Donc même si, évidemment, ce qui est intéressant, c'est que c'est pour moi une valeur qui... Enfin, c'est pas une valeur, c'est plutôt un sujet. Et c'est en effet allié avec des questions sociales. Par exemple, en Allemagne, les Verts ne sont pas à la base un parti écologiste, mais un parti qui se préoccupe de questions écologiques, mais d'abord un parti social. En France, c'est très différent.
Et c'est ce qu'a essayé de faire le Parti Vert en devenant Europe Écologie
Voilà,
Les Verts.
Voilà, exactement.
Peut-être.
Mais c'est peut-être un gros problème historiquement du Parti des Verts en France, c'est que du point de vue de la médiatisation et de sa visibilité publique, eh bien, on a l'impression qu'ils ne se soucient que d'écologie, alors que ce n'est pas du tout le cas.
Oui, pour moi, il est impossible d'être écologiste et d'être de droite, tout simplement, parce qu'être écologiste,
pêche, nature et tradition.
Anti-productiviste.
Corinne Lepage et ses 0,5% d'intention de vote.
Le capitalisme est lié au productivisme, et donc je vois pas bien comment est-ce qu'on peut être pour le capitalisme et à la fois pour l'écologie. Il y a une contradiction fondamentale entre
c'est un business l'écologie, non?
Après, bien sûr, il y a pour l'écologie comme pour tout, il y a les tartuffes et puis il y a ceux qui le sont réellement.
Corinne Lepage, tartuffe.
Par exemple, il y a ceux qui échangent les circonscriptions contre les centrales nucléaires et puis il y a ceux qui, comme le Front de Gauche, prônent un référendum à l'issue d'un grand débat national sur l'énergie sur cette question.
Juste un petit mot,
et après on va changer d'axe.
Puisqu'on parle d'écologie, juste un petit mot sur les Verts. Moi, j'ai l'impression que les Verts, en fait, rendent pas beaucoup service à l'écologie, parce que ils sont enfermés dans une espèce de une posture qui consiste à donner des leçons de morale à tout le monde. Mais par exemple, sur le réchauffement climatique et sur le CO2, tant que la Chine nous enverra balader, on ne sauvera pas la planète. Donc,
L'échec du sommet qui avait lieu, je ne sais plus où, là, il y a ce week-end, on est la marque. Hein, Cancun, c'est ça, Cancun. Durban.
Et le Brésil et l'Inde aussi.
Les nouveaux pays émergents. Thomas.
Juste pour revenir sur l'écologie, le problème, en fait, c'est peut-être pas forcément le positionnement gauche-droite de l'écologie, mais c'est peut-être le positionnement de l'écologie dans la politique. Parce qu'en fait, ça serait normal que tous les partis politiques se préoccupent d'écologie, c'est ce qu'on a dit. Et on voit bien, alors Tartuffe ou pas, tous les partis qui se présentent à l'élection présidentielle vont avoir dans leur programme, alors plus ou moins développé, des mentions écologiques. Et on voit bien que quand on essaye d'étiqueter l'écologie d'un côté ou de l'autre, c'est souvent pour instrumentaliser. On sait très bien que Génération écologique est le grand parti des années 80-90 qui a vraiment créé le sursaut de l'écologie politique. Il avait été créé sur l'appui de François Mitterrand pour concurrencer les Verts à l'élection régionale, aux élections régionales. On sait très bien que la candidature de Corinne Lepage en 2002, elle a été soutenue par Jacques Chirac pour déstabiliser le vote vert pour ces élections. Donc il y a aussi une instrumentalisation de l'écologie et c'est ça qu'il faudrait régler. Il faudrait arrêter une politisation de l'écologie et qu'elle soit acceptée par tout le monde.
Donc on en vient à ce que j'avais appelé les enjeux qui divisent, là, donc clairement, là. L'écologie utilisée pour des circonscriptions électorales et compagnie. Frédéric, tu as évoqué un sujet qui était lié avec l'écologie sur lequel on peut repartir, hein, pour partir les combats entre les partis qui sont référencés de gauche. Donc PS, Front de Gauche, Lutte Ouvrière, NPA, Europe Écologie, Les Verts, pour citer peut-être les cinq principaux. Les centrales nucléaires. Est-ce que, par exemple, pouvez-vous me parler, vous me donner votre avis sur le duel François Hollande-Eva Joly à propos de ces centrales nucléaires et du nucléaire en France?
Alors,
est-ce qu'il faut s'opposer au nucléaire quand on est de gauche, ou comment s'opposer au nucléaire quand on est de gauche?
Je pense que le nucléaire est une énergie très dangereuse, comme on l'a vu récemment avec Fukushima, comme on l'a déjà vu avec d'autres catastrophes. Et c'est une énergie qui...
Et
en plus...
les militants de Greenpeace qui viennent de s'introduire dans des centrales assez facilement.
Oui, alors, à mon avis, la lutte contre le nucléaire est légitime, et personnellement, je soutiens ces militants de Greenpeace qui ont le courage de mener ces actions. Donc le nucléaire, c'est une énergie dangereuse qui, en plus, a été mise en place de manière non démocratique à une époque très productiviste de l'après-guerre. Et c'est une énergie sur laquelle on met tout l'argent de la recherche en France. Donc après, on s'étonne qu'il n'y ait pas d'autres énergies qui émergent. Donc, à mon avis... Si on développe la recherche dans d'autres domaines, si on met vraiment des moyens dans l'énergie renouvelable, notamment par la relocalisation de l'économie, c'est possible de sortir du nucléaire. Alors néanmoins, c'est un sujet très grave qui, à mon avis, donc, ne doit pas être traité par des petites négociations électorales comme ça s'est passé entre Eva Joly et François Hollande. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un grand débat citoyen à travers tout le pays sur cette question. Donc, c'est ce que nous proposons au Front de Gauche, de conduire un débat sur la politique énergétique qui sera suivi d'un référendum pour que ce soit le peuple qui décide si oui ou non nous poursuivons le nucléaire, ou alors si nous engageons un processus de transformation écologique pour en sortir.
John, tu veux réagir?
Oui, rapidement. Moi, j'ai l'impression que moi, ça me dérange assez la psychose du nucléaire post-Fukushima. Parce que je suis d'accord qu'il y a des gens qui ont toujours été très cohérents, des gens de Greenpeace, par exemple, qui depuis longtemps sont opposés au nucléaire. Mais il faut bien se rendre compte qu'il ne peut pas y avoir de tsunami en France. Et puis moi, je ne suis pas d'accord quand tu dis qu'en France, on ne fait pas de recherche pour de nouvelles énergies. En France, on fait ITER, qui est un des plus gros projets, je crois que c'est un projet européen, qui permet de... qui a pour but de prouver que la fusion est possible. Énorme équipe de chercheurs, c'est une collaboration internationale qui avance.
Vas-y.
Je crois que la vraie condition pour qu'une recherche digne de ce nom émerge dans le domaine énergétique, c'est d'abord que le domaine de l'énergie soit entièrement public et non pas soumis, comme c'est le cas actuellement, à des intérêts privés d'Areva, de Total. C'est pour ça que nous sommes favorables à un grand pôle public de l'énergie pour que cette question puisse être vraiment appropriée par les citoyens et ne soit pas le jouet d'intérêts financiers.
Alors le duo qui se bat pour le micro a envie de réagir.
Non,
débrouillez-vous.
Là, c'est Thomas qui a la parole quand même.
C'est gentil. Juste pour réagir, c'est pas tout à fait vrai ce que tu dis, parce qu'au Danemark, à peu près, enfin plus de 50% d'énergie verte. Le Danemark est à fond dans les énergies vertes et c'est absolument pas public. Très peu public. Ils font juste des grandes lois qui donnent des objectifs, qui fixent des objectifs. Et il y a une politique volontaire du gouvernement et une politique de recherche. Après, on est d'accord qu'il y a un problème d'investissement du gouvernement dans la recherche et qu'on met trop sur le nucléaire. Mais je suis d'accord avec June aussi. Je suis d'accord avec tout le monde, c'est magnifique. Sur le fait que...
C'est ça être de gauche, peut-être.
J'aime des consensus, je suis pas sûr. Sur le fait qu'il faut arrêter avec la psychose du nucléaire. Parce qu'il faut, regarder aussi autrement. Si jamais on n'avait pas le nucléaire en France, qui est quand même, même si c'est une énergie dangereuse, qui pose le problème du retraitement des déchets, on aurait une énergie très polluante, parce que qui rejette beaucoup de gaz à effet de serre, ce qui n'est pas du tout le cas du nucléaire qui est l'énergie la plus propre. Et ça poserait d'autres problèmes et d'autres nécessaires adaptations. Et on le voit bien dans les grands pays émergents comme la Chine, c'est aussi ces problèmes-là qui vont, d'ici 20 ans, se poser à eux. Non pas le problème nucléaire, mais le problème qui va se poser à tout le monde de la fin des énergies fossiles. Donc c'est un problème plus vaste que juste la question nucléaire ou pas. C'est penser un nouveau mode de production énergétique et un nouveau mode de vie, parce qu'on ne pourra plus prendre l'avion comme ça pour aller en vacances à Pamplune ou prendre le train tous les jours, même avec les nouveaux horaires de la SNCF.
Oui, très vite, comme tu m'interpellais, peut-être que la différence entre la France et le Danemark, c'est qu'au Danemark,
c'est la taille.
Le groupe le plus puissant, c'est pas Total et il n'y a pas Areva non plus. Donc forcément, il y a un rapport de force économique qui est différent pour mettre en place une planification écologique digne de ce nom.
Oui, alors je dirais que moi aussi, je suis consensuelle en ce sens que je pense en effet que les intérêts énergétiques ne devraient pas être des intérêts privés, mais du domaine public. Et également, je suis d'accord avec Thomas du point de vue qu'il nous faut une transition énergétique pour passer à un nouveau mode de vie et à un nouveau système, parce que nous ne pouvons pas continuer en l'état actuel des choses. En ce qui concerne plus précisément le nucléaire, je dirais qu'il ne faut pas se leurrer. Comme le disait justement Thomas, le nucléaire est une énergie propre et le gros problème vient du danger qu'il représente. Et le danger qu'il représente...
Il est propre du point de vue des émissions de gaz à effet de serre,
Des gaz à effet de serre, mais par exemple, si on prend les panneaux solaires qui sont si glorifiés, on pourrait dire que leur construction même ou leur destruction ensuite, une fois qu'ils ne marchent plus, en fait, elle produit plus de pollution que je ne sais plus combien, enfin ce que ça représente également d'émissions de gaz à effet de serre. Donc je veux dire, c'est en effet toujours un balancier constant. Il est très difficile de savoir les choses. Alors, pareil.
Aussi passionnant soit le débat sur l'énergie, on va changer
en fait,
pour aborder quelques
une dernière chose concernant la gauche.
Oui, vas-y.
Parce que c'était pour amener au débat sur la gauche.
Parfait.
Frédéric disait finalement que qu'il faut que ce soit du domaine public, il faudrait organiser un référendum, que ce soit au peuple de choisir. Mais est-ce que le peuple forcément choisirait de ne pas prendre le nucléaire? Par exemple, on l'a vu en Allemagne,
Peut-être lui donner l'occasion de choisir plutôt que d'essayer d'anticiper.
Bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en Allemagne, on a eu une sortie, contre le nucléaire suite à Fukushima et parce qu'il y a eu intervention de l'opinion publique allemande et grande peur de la part des politiciens. En même temps, ce dont ne se rendent pas compte les Allemands, c'est que par exemple le nucléaire que ne produisent plus les Allemands, eh bien en fait ils vont le chercher en France par ailleurs. Et est-ce que les gens se rendent tout à fait compte? Par exemple, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, dire on veut pas trop payer cher pour notre essence et de l'autre côté bah oui mais on veut pas, ou notre essence ou notre énergie en général, et de l'autre côté bah oui mais bon on veut pas que ça fasse trop de pollution et donc du coup ça donne, enfin vouloir des systèmes énergétiques plus complexes et donc plus chers. Donc il y a un moment, il faut aussi mettre au courant les gens, les informer non seulement sur les risques du point de vue de la pollution, du point de vue de la santé, du point de vue de tout ce qui peut être risque fatal, mais également sur les coûts financiers, sur l'usure, etc. Donc je pense que
Frédéric a envie de réagir, donc je m'en voudrais d'en empêcher.
Moi, je pense qu'il n'y a pas de limite à la souveraineté du peuple et je ne vois pas pourquoi certains enjeux devraient être réservés à des experts mieux informés que les citoyens. Je pense qu'à partir du moment où on se donne les moyens de conduire des débats dignes de ce nom, tous les enjeux peuvent être confiés à la souveraineté populaire. Et ça me paraît très délicat de dire qu'il y a des sujets sur lesquels les gens ne seraient pas éduqués, ne seraient pas informés.
C'est précisément ce
qui justifie toutes les atteintes à la démocratie. C'est précisément ce qui justifie aujourd'hui
le diktat
des marchés financiers.
La démocratie, c'est pas ne pas reconnaître.
Oui, c'est bien pour ça que je dis que le référendum doit être précédé d'un grand débat, oui. Mais ça ne remet pas en cause l'idée même du référendum.
Il ne faut pas que ce soit démagogique non plus. faut donner les tenants et les aboutissants, et on a besoin d'experts.
Après, si on a peur du débat, bien sûr.
Non, je n'ai pas peur du débat, ni personne d'ailleurs, je pense. Mais pour qu'il y ait débat, il faut que tous les participants aient les mêmes informations et les mêmes connaissances. Donc bien des groupes d'experts qui puissent transmettre les informations.
Les Greenpeace, par exemple, ils font surtout des coups médiatiques et ils cherchent à faire peur aux gens, mais on ne peut pas dire qu'ils informent. Enfin, peut-être qu'ils le font, mais ils font surtout des gros coups médiatiques et puis bien surfer sur la vague de Fukushima.
Le jeu de mots est mauvais, je ne peux plus me permettre.
Ah non, c'était pas fait exprès.
Moi, je me demande un peu qui sont ces experts dont on nous parle souvent.
Alors, est-ce que ce sont les experts de l'Union européenne
pour faire la transition avec un autre sujet?
La technocratie est quelque chose de bien.
Pour faire la transition avec un autre sujet sur la finance, peut-être, puisque ce serait intéressant qu'on parle un petit peu de la crise financière.
C'était
la crise,
dans la suite, mais visiblement, l'écologie vous passionne totalement.
La crise de la
dette.
On dit tout le temps qu'il y a des experts, alors qu'on voit à la télé des...
Les agences de notation.
Oui, alors qui nous expliquent qu'on n'a pas le choix, qu'on est obligé d'adopter des mesures d'austérité, de rigueur. Alors, il y a un des confrères de Transistor là, qui écrit des choses très intéressantes là-dessus, c'est Acrimed, qui nous apprend, par exemple, que beaucoup de ces experts qu'on voit à la télé, ben, il se trouve qu'ils travaillent également pour des banques. Outre le fait qu'ils sont profs d'économie, ils sont aussi financés souvent par de nombreuses banques privées, ce qui remet légèrement en doute leur objectivité en tant qu'experts. Donc je crois que voilà, oui, il faut souvent se méfier de la technocratie qui n'est jamais neutre, objective, comme elle le fait croire. Et puis finalement, s'en remettre à la souveraineté du peuple, ça peut être pas si mal quand on est de gauche.
Bah, là où tu as raison, c'est le problème du manque d'objectivité des experts. Mais on ne peut pas nier du coup qu'en soi, l'idée d'expert ou d'expertise soit un problème. Et je pense que la confiance absolue dans les lumières du peuple est un suicide. Et c'est même criminel.
Elle s'énerve encore. Alors peut-être juste,
juste pour commenter à la façon d'un match de foot, Thomas, tu n'es pas obligé de prendre le micro.
Si, non, juste pour revenir, et ça va faire le lien avec la gauche et les divisions. C'est intéressant ce que tu disais, Frédéric, sur le positionnement de la gauche par rapport au peuple. Non, c'était pas intéressant ce que tu disais, Pauline. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Non, justement, June disait tout à l'heure, il y a eu de grandes fractures dans la gauche politique en 1983. Et c'est vrai, on a une gauche qui a un rapport au peuple qui est dual aujourd'hui. Une partie de la gauche que tu peux représenter avec le Front de Gauche qui parle de ses assemblées citoyennes, qui veut faire des référendums et qui vraiment fait confiance au peuple. Et d'un autre côté, la gauche que l'on taxe peut-être à tort de trop faire appel à ces think tanks, les autres Terra Nova et la Confédération Jean Jaurès, quelque chose comme ça. Et justement, Terra Nova qui a publié un rapport qui n'aurait pas dû être diffusé, mais qui montrait que le Parti Socialiste devrait non plus s'intéresser aux masses populaires, mais aux classes moyennes. Et on voit bien que c'est ça, la gauche, les divisions de la gauche, elles peuvent être là sur le rapport au peuple. Et
alors,
c'était intéressant.
Je pose quand même la question pour cadrer le débat un petit peu et je vous lance sur ces thématiques-là. Aujourd'hui, donc, la gauche en France est représentée par plusieurs partis. Parti Socialiste, Front de Gauche, Lutte Ouvrière, NPA, Nouveau Parti Anticapitaliste, Europe Écologie Les Verts éventuellement, les cinq principaux, après il y en a quelques micro-partis encore qui pourraient s'adjoindre. C'est la gauche sur l'échiquier politique, comme on dit, mais qui est encore vraiment de gauche dans ces partis-là? C'est un peu la question que vous vous posiez. Et Frédéric, toi qui es représentant d'un de ces partis, j'ai envie de te poser la question en premier. Est-ce que le Front de Gauche est à gauche et pourquoi l'êtes-vous plus que les autres partis de gauche?
Alors, je dirais que le Front de Gauche...
J'espère que tu vas me répondre oui, que le Front de Gauche est à gauche.
Non, le Front de Gauche est à droite.
J'hésite un petit peu. Bon, je crois que le Front de Gauche est la seule force à gauche qui a vraiment pris la mesure de la crise, parce que c'était intéressant quand tu parlais de 1983.
Alors la seule, tu exclus donc des partis comme Lutte Ouvrière ou le NPA?
Alors, je dirais que la différence qu'on a avec ces partis, c'est...
Ou le Parti communiste, après tout. Enfin, quoi que le Front de Gauche, aujourd'hui,
le Front de Gauche rassemble,
ça dépend si on parle Parti de Gauche ou Front de Gauche.
Je rappelle rapidement que le Front de Gauche rassemble de nombreux partis de gauche et écologiste et anticapitaliste. Donc le Parti de Gauche de Jean-Luc Mélenchon, le Parti communiste français, et des forces venues du NPA ou des écologistes de gauche. Bon.
Mais on sait quand même que ça n'a pas plu à tout le monde au PC de se rallier à la bannière Mélenchon, entre guillemets.
Alors, il y a tout de même 95% des communistes qui sont prononcés pour le Front de Gauche, et parmi eux, 60% pour Jean-Luc Mélenchon.
Il en reste 40%.
Donc, aujourd'hui, le Front de Gauche, c'est la force qui est moteur pour l'union à gauche et qui est moteur surtout autour d'un projet. et pas autour, pourquoi... autour d'un prétendu vote utile.
Alors pourquoi est-il plus à gauche que le PS pour faire assez court?
Ben, tout simplement parce que nous pensons, contrairement au PS, qu'en période de crise, il faut s'opposer aux diktats des marchés financiers. Il faut reprendre le pouvoir face aux banques et pas accepter, sans broncher, les appels à la rigueur ou à l'austérité lancés par la BCE ou le FMI. FMI d'ailleurs dirigé il y a peu par un soi-disant socialiste Dominique Strauss-Kahn, ce qui est très révélateur de la dérive du PS depuis 1983.
June, le et Parti alors... Socialiste est-il encore à gauche?
Non, enfin, moi je pense que non. Mais justement, si on parlait de Terra Nova qui avait publié un rapport, mais pourquoi il n'aurait pas dû être publié? Moi je trouve que c'est simplement un constat lucide. Ça fait 30 ans que...
Alors le contenu de ce rapport, s'il vous plaît, pour les gens qui ne le connaîtraient pas.
Pour parler vite, ils ont dit que le PS, enfin que les ouvriers votaient pas PS, c'est normal. Enfin, les ouvriers votent FN aujourd'hui, et ça fait un bout de temps.
Thomas, qui a ses chiffres sous les yeux, va nous donner tout de suite l'intention de vote pour Marine Le Pen.
16,5% selon le sondage TNS Sofresse du début décembre, publié dans le Nouvel Obs.
Et donc, c'était simplement un constat lucide. Et puis Terra Nova conseillait au PS, mais ce que le PS fait déjà un peu, c'est-à-dire de changer d'électorat.
Les classes CSP+, c'est comme ça on dit.
C'est ça.
Oui.
Ce qui veut rien dire.
Deuxième chose, j'ai pas l'impression que. Enfin, tu vas pouvoir répondre. Que Jean-Luc Mélenchon propose une rupture beaucoup plus nette avec par exemple l'Europe telle qu'elle est construite actuellement. J'ai l'impression que. Enfin, j'ai pas eu l'impression qu'il voulait sortir de l'Union européenne. J'ai pas eu l'impression qu'il. Enfin, il disait souvent que lui, il irait devant les autres chefs d'État européens, qu'il dirait non, mais nous, on va pas faire comme ça. Enfin, c'est comme ça que je l'ai entendu. Donc, j'ai pas l'impression que ça soit une véritable rupture.
Si tu veux, d'abord, pour nous, le Front de Gauche, c'est une démarche collective. Bon, Jean-Luc Mélenchon en est le porte-parole, en est le candidat. Mais c'est d'abord un collectif avec un programme commun, programme L'Humain d'abord, que nous vendons dans toute la France pour 2 euros, notamment ici à l'ENS de temps en temps.
On va se passer de la pub pour faire ça, s'il te plaît.
Mais c'est de la pub politique, on a le droit. Donc dans ce programme, il y a des propositions très claires par rapport à l'Union européenne. Par exemple, la sortie du traité de Lisbonne qui impose la concurrence libre et non faussée. Ça, c'est une proposition claire.
Après,
également la sortie d'un certain nombre de dispositions de Maastricht. Donc toutes les dispositions qui nous empêchent de mener une politique de gauche, donc nous entendons nous en affranchir. Et notamment également par la création d'un pôle public bancaire. Un pôle public qui permettra aux salariés de reprendre eux-mêmes leurs entreprises. Alors j'ai vu que François Hollande était allé voir des ouvriers il n'y a pas longtemps dans une usine avec Arnaud Montebourg. Alors c'est très bien qu'il allait voir des ouvriers, mais qu'est-ce qu'il leur a dit comme proposition concrète? Nous au Front de Gauche, on a des propositions concrètes. On dit si une entreprise est menacée de fermer, on propose qu'il y ait un pôle public bancaire qui aide les salariés à reprendre eux-mêmes leur outil de travail, comme le proposent en ce moment les salariés de Cifrance qui veulent monter une SCOP. Dans des cas comme ça, il faudrait que l'État soit en mesure d'aider les salariés à reprendre eux-mêmes leur entreprise. Il n'y a que par des propositions claires comme ça que la gauche peut reconquérir les classes populaires, même si je ne serais pas aussi affirmatif que toi en disant les ouvriers votent FN, c'est quand même
35%.
C'est quand même un peu court et les sondages.
Alors 8% pour le PS.
Oui. Enfin, les sondages sont faits sur des bases très contestables.
Ça donne un ordre d'idées.
Et puis
général.
Le premier vote parmi les classes populaires, c'est d'abord l'abstention, c'est d'abord la déception par rapport à la politique.
Et le vote FM est aussi une déception par rapport à la politique, de toute façon.
De moins en moins, mais on pourra en. On voit de plus en plus avec Marine Le Pen qu'il y a un mouvement d'adhésion aux valeurs du Front National. Et c'est bien ça le problème. Le Front National est en train d'évoluer d'un vote de contestation porté par Jean-Marie Le Pen à un vote qui mélange contestation et adhésion à un ensemble de valeurs qui flirte avec le mythe de la démocratie.
Est-ce que Marine Le Pen est arrivée à gauche alors?
Pas pousser non plus. Hein.
Écoute,
c'est intéressant parce que j'avais entendu.
Pour séduire les ouvriers et défendre la classe.
J'avais entendu à la télévision il y a quelques mois maintenant un journaliste de je ne sais plus quelle revue obscure, de bien à droite, on va dire, limite fasciste de droite, qui disait justement on est contre Marine Le Pen désormais, on apprécie encore son père, mais elle, ça ne va pas du tout. Soit dit en passant, on peut remarquer l'importance de la personne dans les partis. On pourrait aussi dire par rapport au Front de Gauche que, par exemple, la personne de Mélenchon peut-être. pose un problème au front de gauche lui-même, au-delà des valeurs que le front de gauche tente de véhiculer.
Et ça marchait aussi pour le NPA, pour rebondir sur ce que tu disais, parce que depuis que Olivier Besancenot est parti, qui incarnait cette...
Voilà,
Philippe donc, Poutou aujourd'hui, à part son nom qui fait rire tout le monde, et malheureusement peut écouter.
0,5% d'intention de vote voilà, dans le dernier sondage.
Donc l'importance des personnes à la tête des partis, comme on dit par exemple qu'aujourd'hui Sarkozy serait un problème pour son parti, ou encore que depuis que François Mitterrand n'est plus, la gauche non plus, enfin le PS n'est plus. Mais donc par rapport à Marine Le Pen, ce journaliste de je ne sais plus quelle revue disait maintenant, de toute façon, le FN c'est devenu un refuge de gauchistes. Nous on prend des vraies valeurs de droite. Oui, Marine Le Pen, elle est à gauche. Donc Et alors, malheureusement, je ne me souviens plus de qui disait ça, mais il faudrait que je retrouve la référence, parce que c'est vrai, je ne mens pas. Et tout ça pour dire comment finalement, selon les personnes, selon la position de ceux qui s'expriment sur l'échiquier politique, eh bien, un tel sera à gauche ou un tel sera à droite.
C'est pas très étonnant, parce que Jean-Marie Le Pen, lui, son programme économique, il s'inspirait de Reagan et de Thatcher dans les années 80. Donc, s'il y a des gens qui adhéraient à ça... c'est sûr qu'avec Marine Le Pen, c'est une autre chanson. Et si Marine Le Pen parle des ouvriers, que des ouvriers votent pour elle, c'est naturel. C'est...
J'ai l'impression qu'on s'égare un petit peu là sur.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Sur le Front National. Le Front National, c'est un parti.
Le parti du vote ouvrier.
Héritier, voilà, de l'extrême droite européenne qui a exterminé les Juifs d'Europe. Un parti qui a jamais nié ce passé, hein, qui a Jean-Marie Le Pen a invité des Waffen-SS, il a fait des allusions. Marine Le Pen n'a jamais renié ce passé, que je sache. Son discours d'investiture est un discours nationaliste, sans aucun contenu social, sans aucune proposition. Je n'ai jamais entendu Marine Le Pen proposer une augmentation des salaires,
c'est capital. Très intéressant ce que vous dites, mais on est là pour parler de la gauche.
Le Front National
s'il vous plaît.
Non, je dirais simplement que pour moi, le Front National est un parti fasciste. C'est un parti qui, en période de crise, cherche à maintenir la domination capitaliste par des moyens coercitifs. C'est pour l'exploitation entre Français. Et il faut absolument pas tomber dans ce piège qui nous est tendu de faire croire qu'il y a un discours social.
Alors Thomas, il nous reste 4 minutes et j'ai encore une question à vous poser. Donc,
juste pour revenir et clore le débat sur le Front National, lisez le livre de Najat Vallaud-Belkacem, Répondre au Front National, qui vous montre que si Marine Le Pen reprend telle quelle des phrases du Parti Socialiste ou du Front de Gauche, c'est juste des effets d'annonce. Elle analyse point par point, Najat Vallaud-Belkacem et Guillaume Bachelet, que c'est juste des effets d'annonce et que derrière, le discours a très très peu changé depuis son père. Voilà. Donc Marine Le Pen n'est vraiment pas de gauche.
Alors maintenant, j'ai envie d'en venir au PS, Parti Socialiste, qui est quand même la force de gauche qui est la plus susceptible de gagner en 2012. Le chiffre, Thomas, s'il te plaît, de
31% d'intention de vote dans le TNS Sofres de début décembre.
Oui, juste une petite remarque sur le score.
Rapidement, s'il te plaît.
De Hollande, c'est les deux derniers candidats qui étaient aussi hauts dans les sondages 6 mois avant. C'était Giscard en 81 et Balladur en 95. Les deux ont perdu.
D'accord. Donc, mais c'est quand même celui qui proportionnellement.
Ségolène Royal aussi. Il faut la rajouter dans la liste. Elle était très haute dans les sondages.
Le mieux parti. Et pourtant, on a l'impression que le PS va pas très très bien en ce moment quand on réfléchit. Depuis quelques mois, on a l'impression qu'il s'embourbe. Guérini, DSK, les circonscriptions du Nord-Pas-de-Calais, ça pue un peu chez les socialistes, j'ai l'impression. Et on voit émerger un brave homme depuis les primaires, Chevalier Blanc, sorti de ce tas de fumier, Montebourg. Que pensez-vous de la situation interne du PS? Est-ce que François Hollande va réussir à rassembler tous ces gens-là derrière lui, de Manuel Valls à Arnaud Montebourg, en passant par Martine Aubry, Ségolène Royal et tous leurs amis?
Déjà, pour ce qui est des affaires Nord-Pas-de-Calais et tout ça, c'est depuis un certain temps, la droite gagne les présidentielles et le PS gagne les élections intermédiaires. Donc, ils sont aux responsabilités depuis un certain nombre de temps dans les mairies et dans les régions. Et ce qui fait que pendant tout ce temps, ils ont eu un certain nombre de cadavres accumulés dans leur placard, et ils n'ont pas nettoyé tout ça, donc forcément ça.
Et est-ce que Montebourg a raison de les sortir alors ces cadavres?
Il aurait fallu le faire avant.
Vous n'avez pas envie d'en parler?
Non, du point de vue de la situation interne du Parti Socialiste, j'ai envie de dire, ça fait pas seulement quelques mois qu'ils sont dans la merde, tout simplement pour dire les choses. J'ai envie de dire que c'est au moins depuis 2002 et puis le passage au second tour du FN, sinon depuis avant, depuis les crises qui ont suivi la fin du règne. C'était un règne de François Mitterrand. De toute façon, la gauche, du point de vue des présidentielles, n'a eu qu'un passage au pouvoir. De ce point de vue-là, elle n'a pas vraiment une expérience. Enfin, elle a une expérience quand même forte, évidemment, mais on ne peut pas faire de comparatif facilement. En revanche, comme tu le soulignais, elle a eu beaucoup de pouvoir à des échelles plus locales ou régionales, ce qui est intéressant quand on veut parler justement de souveraineté populaire ou de rapport au peuple. Mais en même temps, moi, ce que je tiens à dire, parce que je suis de sensibilité de gauche et plutôt du Parti Socialiste, donc là, oui, je ne suis pas objective, en effet, et je ne suis pas non plus une experte. Je dirais tout simplement que le Parti Socialiste souffre quand même d'une forte carence en image, et que cette forte carence en image, elle est due aussi à la façon dont les médias les traitent. On n'arrête pas de mettre en relief et d'insister sur les dissidences et les divisions internes du Parti Socialiste sans s'attarder assez aux autres partis. J'ai l'impression que c'est vraiment le parti, souvent le parti People. Et je pense qu'il faudrait peut-être s'arrêter aussi sur tout ce qu'ils ont de commun et en accord.
Il y a June qui s'est levée et qui commence à hurler. Donc.
Alors moi, je suis pas du tout d'accord quand tu dis que le PS est maltraité par les médias. Il y a un sondage qui a été publié dans Marianne en 2002 qui montrait que...
Marianne.
Oui, bah...
On avait entendu. Hein.
les auditeurs ne verront pas ta tête, donc ils ne vont pas forcément comprendre.
Qui révélait que 80% des journalistes votaient Jospin, sachant que justement en 2002, Jospin n'est pas passé au second tour. Donc c'est dire
il
n'y
a
quel
pas
point...
assez de journalistes en France.
Non, mais c'est dire à quel point le monde médiatique est très coloré. Et très coloré PS. Donc,
ce qui ne signifie pas que dans leurs articles ou dans leurs émissions, ils leur soient forcément favorables. Moi, en fait, je pense que les revues plus ou moins spécialisées ou voilà, politiques, oui. En revanche, quand on voit le journal télévisé, celui que finalement tout le monde voit, TF1 ou France 2 d'ailleurs, on peut remarquer qu'ils n'arrêtent pas justement d'insister de façon plus ou moins insidieuse, ironique ou carrément comique sur les tribulations. Division du Parti Socialiste.
Alors Thomas, 30 secondes et après je pose une question à Frédéric. Et
c'est un problème de communication aussi de la part du candidat. On voit qu'il y a deux postures qui sont en train de se construire. D'un côté un Nicolas Sarkozy qui veut s'affirmer en tant que président et qui fait tout pour se faire oublier. Là en cela, il se met dans la posture des Mitterrand et De Gaulle qui, en vue d'une réélection, en faisaient le moins possible et contrôlaient leurs apparitions publiques. On a vu que quand il s'est exprimé après les grandes conférences européennes, sa parole, il était auréolé de gloire, évidemment, tout ça a été avec plein d'emphase, alors que le problème de communication du côté de François Hollande, il est obligé de commenter lui-même la situation politique et toutes les petites polémiques, tout ça parce que il n'a pas réussi à mettre une équipe de communication assez forte qui porte sa parole et qui revient sur ses polémiques. En tant que candidat, il est à la fois obligé de proposer et de commenter la situation, alors que Nicolas Sarkozy ne la commente jamais. Donc là, il y a un déficit d'image aussi.
Alors Frédéric, tu vas réagir sur ces questions, mais une petite question. Est-ce que toutes ces affaires, Jean-Luc Mélenchon aura envie, à ton avis, de se jeter dedans au deuxième tour des présidentielles si jamais il n'était pas à ce deuxième tour? Est-ce qu'il appellera à voter Hollande sous forme de tractation ou non avec le candidat socialiste?
Alors, d'abord, nous, on ne se réjouit pas de toutes ces difficultés internes au Parti Socialiste. On espère qu'ils vont faire le ménage chez eux rapidement. Après, si tu veux... Pour nous, l'important, c'est d'abord comment battre Nicolas Sarkozy. C'est notre adversaire principal. Notre adversaire, c'est pas le PS, c'est comment battre la droite. Pour nous, la condition pour battre la droite, c'est d'avoir une gauche réellement de gauche. Une gauche qui, précisément, retourne vers les classes populaires en prenant un partage des richesses, un salaire maximum, une augmentation du SMIC. Une gauche qui soit fidèle à ses valeurs, par exemple sur l'université, en prenant une université publique. Pas comme jusqu'à maintenant, comme quand le PS a accepté la LRU qui ouvre la voie à la privatisation de l'université. C'est ce qu'ont voté les représentants PS des régions au CA des universités. Donc nous, ce qu'on espère, c'est qu'on va arriver à construire une vraie alternative de gauche dans ce pays. Et on constate simplement que le PS actuellement n'est pas à la hauteur de cet enjeu. Et il nous semble qu'au front de gauche, on est plus à la hauteur de cet enjeu au niveau des propositions.
Vous ne serez pas obligé... au deuxième tour, puisqu'il y a plus de chances quand même que François Hollande arrive au deuxième tour que Jean-Luc Mélenchon, de certains compromis pour essayer de peser au moins un petit peu dans cette politique de gauche.
Moi je dirais, ne tombez pas dans le piège du vote utile. On nous a vendu le vote utile en 2007.
Je te parle bien du deuxième tour, hein, pas du premier.
Ça n'a mené à rien, donc au premier tour, le seul vote utile, c'est le vote front de gauche, c'est le vote pour un projet de transformation sociale. Ensuite, comme je te dis, l'objectif, c'est de battre la droite. Voilà. Mais pour l'instant, on est dans une configuration où notre objectif, c'est de convaincre, de faire en sorte que notre projet devienne majoritaire à gauche.
June.
Toi qui es au fond de gauche, moi je ne comprends pas très bien.
Et après on conclura
sur le
cette
plan économique, la différence que tu trouves entre ce que propose Sarkozy et ce que propose le PS.
Bah, c'est bien le problème, effectivement. C'est bien le problème, c'est que la différence économique entre le PS et Sarkozy, on a du mal à la voir. Je crois que tu as exactement résumé la situation actuelle.
Donc vous n'aimez pas beaucoup plus Hollande que Sarkozy?
Ben non, je te le cache pas. Mais on constate qu'aujourd'hui, Hollande, malheureusement, beaucoup de lecteurs de gauche portent leurs espoirs sur lui, mais d'après nous, ils ont encore le temps de changer d'avis.
Une dernière chose.
Une demi-phrase.
Ah, une demi-phrase. Non, bah alors dans ce cas, ce sera juste pour conclure et dire que peut-être parmi tous ces discours un peu militants, il faudrait peut-être se souvenir qu'être de gauche... Et je le disais tout à l'heure, c'est avant tout être à gauche, et être de gauche surtout ne doit pas signifier une appartenance sectaire et sans tolérance. Voilà.
Alors on va terminer, June, désolé de te couper la parole. Donc les gauches s'en vont vers 2012, on aura compris, avec des valeurs qui, nous l'espérons, vont les rassembler, la solidarité en tête, vous l'avez dit. Nettoyer les cadavres qui sont dans les placards, c'est une des conditions, et peut-être revenir au peuple, après tout, peut-être que c'est ça qui fait la gauche en premier lieu. Et on peut dire que la gauche est plutôt pas mal partie, si on en croit les sondages, 45% les totaux de la gauche, parce qu'on en a oublié un en fait qui fait 0,5% qu'on compte pas depuis tout à l'heure, c'est le fameux Jean-Pierre Chenemont, toujours à gauche ou pas, une des questions.
Qui a encore le temps de se rétracter et de ne pas se présenter.
C'est ça, et qui a le temps de ne pas trouver les 500 signatures, c'est peut-être. Ça. Voilà, merci à tous les quatre d'avoir participé à cette table ronde, et à très bientôt j'espère.